Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Billy Van Lutumba.
Des discussions sur les accords d'Addis Abeba Bujumbura. Il est temps de réfléchir sur une meilleure mise en œuvre effective de cet accord cadre. Des engagements qui reviennent aux uns et aux autres, estime l'envoyé spécial secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs. Vous le suivrez en ouverture de ce journal. Nous parlons aussi du blocage à Nitori, du trafic du tronçon Iga Barrière Mongualou dans le territoire de Djougou depuis environ 2 mois, à la suite de l'insécurité et aussi des actions en cours pour des solutions idoines. Professeur Bobette Matulonga, médecin épidémiologiste et docteur en santé publique de l'université Paris-Saclay, est l'invité de ce journal. Elle est à Kinshasa dans le cadre du lancement en octobre prochain d'un master en recherche biomédicale et en épidémiologie. Fidèles auditeurs, restez donc bien avec nous pour en savoir davantage. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Il est temps de réfléchir sur une meilleure mise en œuvre, une mise en œuvre effective de l'accord cadre d'Addis Abeba, des engagements qui revient aux uns et aux autres. C'est ce qu'a déclaré hier l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, Ouyang-Xian. C'était au terme de la réunion préparative de la rencontre des ministres des pays concernés par l'accord d'Addis Abeba. Une rencontre qui se tient en principe ce jeudi sur place à Bujumbura, au Burundi. Pour Ouyang-Xian, le 11e sommet des chefs d'État et des gouvernements qui tiendra le 6 mai prochain sera une occasion pour les chefs d'État d'assurer l'effectivité de la mise en œuvre de cet accord. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Jacques-Yves Molima.
Nous avons eu une discussion très cordiale, mais avec un échange très direct, très franc. Effectivement, je suis d'accord avec tous les membres de la délégation congolaise pour dire qu'il est temps de réfléchir sur une meilleure mise en œuvre, une mise en œuvre effective de l'accord cadre d'Addis Abeba, des engagements qui revient aux uns et aux autres. Et ce sommet sera une occasion pour les chefs d'État de réfléchir sur une meilleure approche à adopter pour assurer cette mise en œuvre effective des engagements et de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et ce dont nous avons convenu, c'est de voir comment évaluer les choses et après comment programmer la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. La réévaluation a pour objectif d'assurer une meilleure mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Nous parlons toujours de cette nouvelle qui, avec ce début jeudi au Burundi, de l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba. La délégation congolaise est conduite par le ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussa Nyamwisi. Signé en février 2013 par 11 États et 4 institutions internationales et régionales, à savoir les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL et la SADC, cet accord porte sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région. Mais qu'est-ce qui a été convenu par les signataires de cet accord? Tentative de réponse avec Michel Kifindangoy.
Dans l'accord cadre d'Addis Abeba, le gouvernement congolais s'était engagé à mener des réformes sécuritaires et institutionnelles susceptibles à renforcer l'autorité de l'État, à promouvoir la décentralisation, le développement économique et la réconciliation nationale. Le pays de la région, eux, s'était engagé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ni à soutenir des groupes armés, à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Pour sa part, la communauté internationale s'était engagée à rester mobilisée aux côtés de la RDC et des pays de la région pour la mise en œuvre de cet accord. La signature de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région avait pour objet de neutraliser et de démobiliser les groupes armés nationaux et étrangers. Il s'agissait de la première initiative de paix visant à mettre fin au conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale et à résoudre les causes profondes de la violence et de la guerre à répétition à l'est de la RDC. Cet accord avait suscité l'espoir de lendemain meilleur après des décennies de conflits d'exploitation illicite des ressources et des souffrances dans l'est de la RDC.
« En plus bref, l'Organisation internationale de la francophonie OIF dit ne plus être en mesure d'assurer l'audit externe du fichier électoral en République démocratique du Congo, comme le souhaite la CENI. Dans une lettre adressée à la CENI le 3 mai et consultée par plusieurs médias, cette organisation dirigée par la Rwandaise Louise Mushikiwabo justifie sa décision par le fait que le délai proposé par la Commission électorale nationale indépendante est tellement court qu'il ne facilitera pas un meilleur accompagnement. Le président de la CENI a écrit à l'OIF qui a déployé la semaine dernière une mission pour évaluer la situation sur terrain et examiner la demande que Denis Kadima a adressée à Louise Mushikiwabo pour l'audit du fichier électoral comme en 2006, 2011 et 2018. Notons que des voix se sont levées pour s'opposer à l'audit externe du fichier électoral par l'OIF pour des raisons de souveraineté. Pour une catégorie de personnes comme la RDC étant froid avec Kigali, elle ne peut pas céder son fichier électoral à une institution dirigée par une Rwandaise. Autre chose à présent, au Nord Kivu, au moins 13 personnes ont été tuées et 4 autres blessées la nuit de mercredi à ce jeudi dans le village de Kizimba, groupement de Bishusha. C'est à environ 6 km à l'est de Kichanga dans le territoire de Rutshuru. Plusieurs sources contactées dans la région parlent d'une incursion d'hommes armés inconnus dans cette zone qui était jusque ce jeudi sous occupation des rebelles du M23. Ces sources déplorent des attaques récurrentes contre des civils depuis quelques jours dans cette région sous contrôle de la force régionale de l'EAC. Bernadette Nyangui nous en parle.
C'est un camp qui hébergeait plus de 1090 ménages et des déplacés qui a été pris pour cible par cette incursion d'hommes armés assimilés aux combattants Nyatura SMC. Autour de 23 heures locales, la nuit dernière, dans ce village de Kizimba, déplore plusieurs sources jointes à Kichanga, ce jeudi matin. Parmi les victimes, ces sources parlent de 6 enfants, 4 femmes et 3 hommes qui ont été tués et 4 autres hommes blessés. D'autres sources soulèvent une hypothèse d'accrochage entre ces combattants du groupe Nyatura et les rebelles du 1-23 qui auraient été à la base de ces victimes collatérales dans ce camp de Kizimba. Un des survivants de cette attaque nous dit que le camp vient de se vider de tous ses occupants et les quelques combattants M23 qui occupaient encore la zone viennent aussi de quitter pour se diriger vers le chef-lieu du groupement de Bishusha. Nos sources dans la région déplorent l'absence prolongée des forces de défense et de sécurité de la RDC dans la région, alors que l'EAC, qui déploie la force régionale sur place, n'a pas dans son mandat les charges de gestion administrative et responsabilités dévolues à la PNC. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
Nous restons dans la même région. L'opération des tracts des enfants dits de la rue Akiasindi a démarré mardi. Elle vise à sécuriser les avenues et trottoirs de cette cité frontalière de l'Ouganda au Nord Kivu et ainsi à permettre le bon déroulement des activités commerciales dans les endroits où ces enfants se promènent à longueur de journée. Le commissaire supérieur Célestin Lembi, commandant de la police Akiasindi, met en garde les contrevenants car, dit-il, ils vont s'exposer à la rigueur de la loi. Il s'exprime au micro de la presse locale dans cet extrait choisi par Guylaine Kassassia.
Après la parade, nous avons intimé l'ordre à tous les policiers de pouvoir patrouiller ces badauds afin de pouvoir les mettre au respect. On a patrouillé tous les secteurs, les loges, tous les dépôts pour des poissons salés. On a installé une équipe de policiers qui seront permanents afin que les citoyens ougandais, les citoyens tanzaniens qui viennent chez nous doivent se sentir à l'aise. Et nos propres compatriotes qui feront leurs affaires, ils les feront dans toute tranquillité. Le premier rôle de la police est de pouvoir empêcher que les actes de sale besoin ne puissent pas être effectués. Nous les avons chassés. Si nous trouvons que ce sont des enfants, nous mettons ces enfants à la disposition de la police de la protection des enfants pour pouvoir les questionner et puis voir comment faire suivre la procédure. S'ils n'acceptent pas, on dit que la force reste à la loi. Nous allons utiliser la force, non pour les détruire, mais pour les corriger.
L'actualité nous amène à Ituri où le tronçon Iga-Barrière-Mongualou dans le territoire des Djougou est toujours suspendu depuis environ 2 mois à la suite de l'insécurité. Les communautés locales installées dans une dizaine de localités le long de cet axe routier ont peur de se fréquenter depuis à cause de l'activisme des groupes armés. Une délégation de la MONUSCO s'est rendue mercredi dans la zone pour échanger avec les différentes couches de la population pour les impliquer dans la recherche de la paix et la cohabitation pacifique. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis la prise en otage des 17 passagers il y a 2 mois sur les tronçons Bambou-Kilo par des miliciens de la Codeco que le trafic est suspendu sur cet axe routier. Une méfiance s'observe entre les communautés locales qui ne se fréquentent pas depuis ces drames. Des échanges commerciaux s'effectuent sur l'axe Nizi jusqu'au pont Bambou où les phares d'essai ont installé leur position pour rassurer les rares passants sur les menaces des groupes armés. Un habitant qui vend de l'huile de palme exprime le calvaire de la population.
Nous souffrons beaucoup. Sur la route, il y a beaucoup des problèmes. L'insécurité entre les deux groupes armés, nous demandons qui est la sécurité sur la route. Que nous vivions en paix. Du côté des bambous, ils viennent avec l'argent. De l'autre côté, ils viennent avec du sel, de l'huile. Et puis nous faisons des échanges. Et tout se passe bien.
La démarche de la MONUSCO pour la rouverture de cette route et la cohabitation pacifique entre les communautés locales est accueillie avec joie par la population. Cela au regard des conséquences subies par la population. Un notable s'exprime.
Nous, on fait l'effort sur tous les groupes armés qui sont en Ituri. C'est le problème de les conscientiser, les sensibiliser, même les mobiliser, afin qu'il y ait une cohabitation à faveur de la communauté.
Une autre délégation de la MONUSCO s'est rendue ce jeudi à Kilo pour la même démarche. Des retours de Bambou, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Vous suivez Radio Okapi, il est 12h10 ici à Kinshasa, nouvelle en plus bref. La morgue centrale de Kinshasa annonce pour le dimanche 7 mai l'inhumation des corps des indigents. Cela se fera au cimetière de Maluku, communément appelé Fula Fula. Dans un communiqué qui nous est parvenu ce mercredi, la direction de la morgue demande à la population de ne pas céder à la panique car toutes ces inhumations auront lieu la journée au vu et au su de tous. Elle invite également la population kinoise au respect des morts. Éducation, les épreuves de hors session d'examen d'État se dérouleront le 8 mai prochain en RDC. La confirmation est de l'inspecteur général de l'EPST. D'après Jacques Odiamusungai, toutes les dispositions que ce soit au niveau national ou provincial ont été prises pour que tout se passe dans le calme. Et cela malgré les revendications hier mercredi ici à Kinshasa des inspecteurs de l'EPST. En effet, ces inspecteurs étaient dans la rue pour réclamer entre autres la majoration de 30% de leurs primes conformément à l'accord de Mbuela Lodge, mais également le non-paiement par le gouvernement des intervenants dans le cadre de la rédaction des diplômes 2020-2021-2022 et aussi de la correction des épreuves certificatives. L'inspecteur général de l'EPST Jacques Odiamusungai, tout en reconnaissant les revendications légitimes des inspecteurs, les appelle au calme et à privilégier l'avenir des enfants. Il le dit au micro de Jacques-Yves Molima.
À l'heure qu'il est, les mâles sont déjà dans toutes les provinces. Les mâles contenant les questionnaires des épreuves de la hors session. Et les dispositions se prennent toujours au niveau de la province. Les mâles sont là. Le 8, c'est la passation de la dissertation. Écoutez, monsieur, revendiquons paisiblement. C'est notre droit. C'est vrai, ça fait mal. 2 ans, 3 ans, on n'est pas payé. Même moi, mettez-vous à la place de ces gens. Ça fait mal. Mais il faut regarder aussi. Il faut aller plus loin que ça. Ne perturbons pas le déroulement de l'examen d'État. Nous aurons tout gâché. Nous avons d'autres étapes. L'examen d'État, c'est tout un cycle. Nous avons également le TENA-SOSP. Nous avons l'ENAFEC. Vous avez beaucoup d'étapes de ces évaluations certificatives. Mais dans un premier temps, observons d'abord. Laissons les choses aller. Tel que je vois les états-majors, nos autorités se démener, j'ai l'espoir que les choses marcheront.
Kindu, avant de passer à la page internationale, au Maniema, face à la persistance de l'insécurité dans la province en général et dans la ville de Kindu en particulier, le gouverneur intérimaire de cette province accorde un moratoire de 48 heures au groupe dit d'autodéfense qui se disent sécuriser la population dans les différents quartiers de s'identifier au commandant ville ou soit au bourgmestre. Selon Afani Idrissa Mangala, cette mesure se justifie par le fait que ces derniers temps, ces jeunes commettent des dérapages pendant leurs opérations. Aussi, ce n'est pas à eux de sécuriser la population en lieu et place des services attitrés. Afani Idrissa Mangala est au micro de Florence Kizalunga.
Il s'est créé des groupes de jeunes non autrement identifiés qui se sont improvisés dans différents quartiers et ils se mettaient à dire que non, c'est eux qui sécurisent la ville, leurs entités respectives, mais en commettant des bévis. C'est pourquoi je leur avais accordé 48 heures. Ils doivent se faire identifier au commandant ville ou soit au bourgmestre. Dans 48 heures, s'ils ne veulent pas dégarnir leur position qu'ils étaient en train d'occuper, alors le gouvernement va s'en occuper et le mettre en prison. Parce que nous avons enregistré des infiltrations de personnes mal intentionnées qui commencent maintenant, au lieu de sécuriser les paisibles citoyens, se mettent maintenant à insécuriser la population. On ne peut pas laisser la sécurisation de la population entre les mains des civils qui ne sont pas identifiés en tant que tels. Et pourtant, le gouvernement a créé ce qu'on appelle le comité local de sécurisation de la ville, géré par les bourgmestres et les commandants des commissariats des communes. Mais malheureusement, dans d'autres quartiers, ce sont les jeunes qui s'organisent eux-mêmes et commencent à insécuriser la population. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette mesure-là.
Actualité internationale.
Les États-Unis et le Programme alimentaire mondial, PAM, ont annoncé mercredi suspendre jusqu'à nouvel ordre leur aide alimentaire à la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie, ravagée par des années de conflits dénonçant le détournement de l'aide. De son côté, le Programme alimentaire mondial basé à Rome dit avoir décidé, selon un communiqué, d'une pause dans la distribution des nourritures au Tigré qui ne reprendra pas avant que le PAM puisse être en mesure d'assurer que cette aide vitale parvienne bien à ses destinataires voulus. Et puis, dans la petite commune de Marcouche, près de Rabat, des agriculteurs marocains collaborent avec un groupe de scientifiques internationaux. Ils souhaitent créer des cultures qui pourront mieux résister aux effets du changement climatique et qui seront plus rentables. Car, avec la flambée des prix du carburant et les engrais, les agriculteurs constatent une baisse de leur rentabilité.
L'invité
de ce journal, c'est le professeur Bobette Maltunglonga, médecin épidémiologiste et docteur en santé publique de l'Université Paris-Saclay. Il est à Kinshasa dans le cadre du lancement en octobre prochain d'un master en recherche biomédicale et en épidémiologie. Un projet conjoint Université Paris-Saclay, UPC, Université protestante au Congo, né d'un déficit en nombre des épidémiologistes en République démocratique du Congo. Le professeur Bobette Maltunglonga s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Professeur Bobette Maltunglonga, bonjour.
Bonjour, monsieur Missenga.
L'Université Paris-Saclay, l'Université protestante au Congo UPC, lance en octobre prochain un master en recherche biomédicale et épidémiologie. D'abord, professeur, comment est né ce projet?
Au fait, l'épidémiologie a toujours été un vrai besoin du pays et donc ce projet est né depuis plusieurs années. Il a été en état embryonnaire depuis bientôt un peu plus de 3 ans et aujourd'hui il sort des terres. Au fait, on part déjà de l'idée du réseau africain d'épidémiologie des terrains qui veut que on ait au moins un épidémiologiste de terrain pour 200 000 habitants. Et on est très loin de ces chiffres en République démocratique du Congo qui manque aujourd'hui plus de 2500 épidémiologistes.
Alors, qui sont éligibles à la formation que vous allez lancer?
Cette formation est principalement ouverte aux médecins et aux autres professionnels de santé, les pharmaciens, mais aussi tous les autres professionnels qui ont au moins un niveau Bac plus 5. Et nous voulons les former en santé publique sur un modèle français en termes des méthodologies, mais en restant dans les contextes congolais. Et l'avantage également pour nous, parce que moi je suis féministe, je l'avoue, dans notre modèle que nous proposons, nous voulons également l'équité des genres dans la formation en santé publique. Et donc dans ces modèles qui permet aux femmes d'être formées sur place, mais sur des méthodologies internationales, ça nous permet d'ouvrir la formation de santé publique aux femmes, parce que d'habitude les formations des qualités, il y en a au Congo, mais il n'y a pas beaucoup de places. Et donc, les personnes qui veulent se former davantage aux méthodes internationales se déplacent vers les pays étrangers. On connaît la culture, les modes de fonctionnement de la société congolaise. Ce n'est pas évident pour une femme, pour une mère, de se déplacer pour aller se former à l'étranger pendant 2 ans, 3 ans.
Est-ce qu'il y a une date précise pour le début des cours?
Oui, la rentrée académique est prévue pour le 9 octobre 2023. Mais avant octobre 2023, septembre, nous allons organiser une pré-rentrée essentiellement dédiée aux personnes qui ne sont pas formées en Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, afin de mettre à niveau nos candidats pour qu'ils soient au même niveau que les autres candidats internationaux français. Et ce sera également l'occasion pour remettre les matériaux didactiques. On remettra un ordinateur ainsi que des clés USB et tous les logiciels nécessaires à nos candidats qui vont être formés.
Il y aura des cours à distance.
Au fait, la formation, elle est organisée en comodal, comme on dit. C'est-à-dire, il y a une partie qui est organisée en distanciel et une autre partie qui est organisée en présentiel. La partie en distanciel, c'est essentiellement les cours dispensés par les professeurs français. Ils mettent à disposition tous les matériels didactiques et ils organisent également certaines séances en direct, mais en distanciel. Et il y aura un moment où les professeurs français vont se déplacer ici à Kinshasa pour entrer donc en contact avec les étudiants. Et toujours pour la partie distancielle, les étudiants congolais seront également invités à Paris pendant 2 semaines pour s'imprégner des modalités d'enseignement français. Et puis, il y a la partie totalement en présentiel qui sera dispensée par les professeurs congolais. Et les professeurs congolais qui enseigneront au cours de ces masters seront eux également invités à venir donner des séminaires aux étudiants français. Donc c'est vraiment un modèle d'échange bilatéral. On n'est plus dans un modèle où les Français viennent imposer, où ils se sentent qu'eux qui ont des choses à dire. Je pense que nous, Congolais, les professeurs congolais, les enseignants congolais, les étudiants congolais ont aussi à dire, ils ont aussi à donner aux étudiants français. Donc du coup, ce modèle est construit vraiment dans les deux sens, bilatéral, échange franco-congolaise dans les deux sens.
Donc c'est un rendez-vous du donner et du recevoir.
Voilà, c'est vraiment ça, parce que je pense que nous, au Congo, on a aussi beaucoup d'expérience des gestions d'épidémies telles que Ebola, choléra. Ce sont des choses que les Français ne connaissent pas. Ils les connaissent peut-être en théorie, mais nous, nous avons cette pratique-là et je pense que c'est le moment que les voix congolaises s'élèvent aussi pour enseigner aux Français notre expérience.
Professeur Bobette Matulonga, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
À vous, auditeurs de Radio Okapi, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal préparé par Blaise Chindani, Martin Sebujangu et l'ensemble de toute la rédaction. Prise de son et mise en onde de cette édition, signée Jean-Noël Mukondo et Billy Ivan Lutumba étaient devant ce micro pour la présentation. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h avec Pascal Masirika.